Nous allons donc poursuivre par notre sujet principal intitulé « Au cœur de l'April ». L'occasion pour vous d'en savoir plus sur nos actions et aussi de nous poser toutes questions. Donc n'hésitez pas à participer à notre conversation. Pour cela, vous avez plusieurs moyens. Le téléphone 09 72 51 55 46. Je répète, 09 72 51 55 46. Sur le salon web dédié à l'émission, sur le site causecommune.fm, bouton de chat. Ou directement sur le site libreavoue.org. Ou encore, on fait de l'innovation via le hashtag dièse libre à vous sur Mastodon. Et donc, on surveille tous ces réseaux. Etienne se tient prêt à dégainer le téléphone au cas où vous appeliez. Donc, on va discuter avec plusieurs personnes actives de l'April. Alors, il y a une liste de sujets, mais évidemment, les personnes qui sont déjà présentes à mon plateau peuvent aussi intervenir sur les autres sujets. Et on va commencer normalement avec la seule qui n'est pas en plateau, qui est en Italie, Marie-Odile. Est-ce que tu es là?
Oui, je suis là, mais je ne sais pas si je suis connectée.
Si, si, on t'entend bien. Alors, donc, Marie-Odile Morandi, tu es la merveilleuse animatrice du groupe Transcription de l'April et également administratrice de l'association. Alors, bah, déjà, première question, présente-nous le groupe Transcription de l'April.
D'accord. Alors, je vais vous présenter le groupe Transcription. Et d'abord, on va se poser la question, pourquoi transcrire ? En fait, de nombreuses conférences et de nombreuses émissions de radio, des vidéos, des podcasts sont mis à disposition sur le web. Si bien que le groupe Transcription de l'April a pour mission de transformer ces vidéos et ces fichiers audio en texte. En effet, comment en faire pour retrouver une conférence audio ou une vidéo sur Internet? À moins de se souvenir du titre, du nom de l'intervenant, ça va être compliqué. Par contre, si elle a été transcrite, cette conférence sera alors associée à un texte que les moteurs de recherche vont pouvoir récupérer et indexer. Le son et la vidéo ont envahi nos espaces, mais le texte est encore une valeur sûre. De plus en plus de personnes doivent composer avec des problèmes de handicap, n'entendent pas ce qui est dit dans la conférence, ne voient pas la gestuelle, les mimiques des intervenants visant à renforcer le message. La transcription non seulement reporte le plus fidèlement possible les paroles des intervenants, mais s'attache à décrire certains détails. La conférence est ainsi rendue accessible aux personnes porteuses de handicap qui, sinon, n'y auraient pas accès. Quand on écoute une conférence, on se souvient de l'idée générale. Mais est-on bien certain d'avoir tout compris, de ne pas avoir fait d'erreur d'interprétation ? Écouter une seule fois une émission, un podcast, permet-il d'en apprécier réellement le contenu, d'en retenir les idées ? Grâce à la transcription, on pourra retrouver les termes utilisés par l'orateur, les réutiliser en citant fidèlement la source. Donc, nos maîtres mots sont indexation, accessibilité et réutilisation. On a aussi des retours de personnes qui savent qu'une vidéo est disponible sur les réseaux, mais qui n'ont pas le temps de la regarder et qui préfèrent lire sa transcription. Alors, tu posais la question sur le groupe transcription. Actuellement, il y a à peu près 80 personnes dans le groupe, certaines actives très régulièrement, d'autres un peu moins souvent.
Oh, wow. Oui, on va dire comme qu'il y a... Tu es la principale personne active, tu dois faire la quasi-totalité des transcriptions, et il y a peut-être deux personnes qui relisent. Parce que quand on dit souvent sur les listes, il y a 80 personnes sur une liste, on a l'impression que tout le monde agit. Non, il y a beaucoup de gens simplement qui regardent de temps en temps les messages, qui peut-être un jour d'ailleurs se deviendront contributrices, mais quand même le gros du travail, c'est toi qui le fais avec une ou deux personnes qui font des relectures.
Tout à fait. Alors, et puis, il faut noter aussi que les intervenants, les intervenantes sont sollicités pour relire et le font à peu près régulièrement.
Alors, quelle est ta méthode de travail ? Parce que on se demande, est-ce que tu fais tout à la main ? Est-ce que tu utilises des logiciels ? Est-ce que tu utilises ChatGPT, par exemple, ou pour transcrire ? Non, je blague, hein, mais explique-nous comment tu travailles, non. Comment tu fais les transcriptions ?
Alors, la procédure, personnellement, je travaille d'abord en local et j'utilise, bien entendu, comme il se doit, des logiciels libres, le traitement de texte de la suite LibreOffice, sur lequel est installé le correcteur Grammalect que je recommande vivement à toutes et tous. Et comme lecteur multimédia, j'utilise MPV. Alors, la transcription est ensuite sauvegardée sur un wiki hébergé sur un serveur de l'April, ce qui permet un travail collaboratif. Quiconque peut se créer un compte, relire et apporter des corrections. Le transcripteur avertit de la présence de cette transcription les colistiers de la liste, mais aussi, comme je viens de le dire, les personnes qui sont intervenues pour une relecture. La transcription relie, corrigée est ensuite finalisée, des liens vers certains sites sont insérés, une illustration vient l'agrémenter. D'ailleurs, je viens de demander l'autorisation à Serge Abitboul et à Hervé Lecronier d'utiliser l'illustration de la couverture du livre qui a hacké Garutsia, pour pouvoir l'utiliser sur le site Libre à lire, et bien entendu, cette autorisation vient de m'être accordée. Et alors, je dois remercier effectivement un outil bien efficace et bien utile. Quand on transcrit, on a devant soi une feuille blanche, et si on travaille de façon artisanale, comme je viens de le décrire, cette feuille se remplit petit à petit. On pourrait penser au syndrome de la page blanche de l'écrivain. Mais j'utilise désormais régulièrement le logiciel Script, dont le code source est sous licence libre. C'est un transcripteur audio-vidéo-texte, résultat du travail de plusieurs personnes et des CEMEA, Centre d'entraînement aux méthodes d'éducation active. Il suffit de se connecter au site, d'indiquer l'origine du média sonore, la langue, son adresse mail et hop, au bout d'un temps correspondant à la durée du média, on reçoit un message avec une pièce jointe qui contient les phrases. Certes, il faut relire de façon consciencieuse et attentive plusieurs fois, mais c'est un gain de temps. Ce système, me semble-t-il, a fait d'énormes progrès. J'étais un peu réticente à l'utiliser il y a encore quelques mois, mais je l'utilise régulièrement désormais. Donc n'hésitez pas à vous connecter à ce site pour en savoir plus.
Alors le site en question c'est scribe.cma.org et je rappelle aux éditeurs et aux éditrices qui nous écoutent que toutes les références qu'on cite, on les met sur la page consacrée à l'émission et c'est la page de l'émission c'est libreavoue.org/193 tout simplement parce que c'est la 193e émission de l'April. On approche de la 200e, je dis ça, je dis rien. Comment les gens, pour finir Marie-Odile, mais évidemment tu resteras après avec nous pour les autres échanges, comment les gens peuvent tout simplement rejoindre le groupe transcription? Quelle est la procédure? S'il y a une procédure.
Oui, déjà, il faut mettre une chose au point. Ne pas savoir coder n'est pas du tout un frein pour participer au logiciel libre. On peut contribuer de nombreuses façons et participer au groupe transcription en est une. Alors, pour rejoindre une première participation très simple, c'est nous signaler des enregistrements audio des conférences qu'il serait opportun de transcrire, bien entendu concernant les thèmes chers à l'April. Une deuxième participation, c'est relire des transcriptions pas encore finalisées pour s'assurer qu'il n'y a aucune erreur, que l'orthographe et la grammaire sont correctes, améliorer quelques tournures de phrases pour rendre la lecture plus fluide. Et là, je tiens à saluer Véronique qui, presque chaque jour, relit et corrige une transcription. Et si on veut s'impliquer davantage, alors, visiter la page wiki du groupe, s'inscrire à la liste de discussion, peut-être poser des questions si on en ressent le besoin et se lancer, commencer la transcription de son choix. Je tiens à noter que dès qu'une transcription est publiée, je le fais savoir à la fois sur X et sur Mastodon, deux réseaux sociaux sur lesquels je suis inscrite, afin de faire connaître le site Libre à lire. Les retours sont souvent élogieux, nos transcriptions sont appréciées, compliments que je tiens à partager avec les 80 personnes de notre liste. N'hésitez pas à rejoindre notre groupe, chers auditeurs et auditrices de Libre à vous.
Ah, c'est l'appel du 28 novembre 2023. Alors pour simplifier les choses, parce que tu as cité pas mal de choses, si les gens veulent rejoindre, et l'action la plus simple à faire au début, c'est tout simplement de s'inscrire à la liste de discussion. Pour cela, les gens vont sur le site du groupe transcription sur lequel on publie les transcriptions, donc qui est simplement librealire.org. Là, vous avez toutes les transcriptions. Vous avez, par exemple, je sais pas combien de transcriptions, mais vous verrez bien. Et il y a une page, il y a un lien contact dans lequel vous pouvez soit envoyer un message à Marudil, soit vous inscrire directement à la liste de discussion de groupe transcription, et vous allez voir comment les gens procèdent, et sans avoir besoin d'envoyer un message forcément. Et puis si à un moment, effectivement, ça vous dit de faire une relecture, là il y a des transcriptions relativement courtes, hein, d'une dizaine de minutes. Effectivement, quand on transcrit, on relit Libre à vous, c'est un peu plus long, c'est 1h30. Mais voilà, il y a du travail pour tout le monde. Donc le site, c'est librealire.org. Vous allez sur la page contact et vous pouvez rejoindre cette formidable équipe animée par Marie-Odile. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose?
Alors, tu voulais une précision. Le nombre de transcriptions aujourd'hui, donc fin novembre 2023, c'est 1330. Donc il y a de la lecture. Et puis, il faut savoir que transcrire permet de comprendre la pensée des intervenants et des intervenantes qui sont en général des experts dans leur domaine, si bien que grâce à la transcription, l'oral devient écrit. On élargit ainsi la connaissance concernant le logiciel libre et les libertés numériques.
Je ne sais pas si toutes les personnes transcrites sont des expertes, vu que tu as transcrit récemment Jean-Noël Barrault. Je ne sais pas. C'est une blague. C'est pour faire rire Étienne. Je sais que ça l'a fait rire. Voilà.
Non, c'est aussi pour conserver ce qu'il a dit, l'avoir exactement, et au besoin que l'April puisse s'en resservir à un moment ou à un autre. Citant la source exacte.
Oui, effectivement, je te taquinais. Il est important aussi de transcrire les ministres pour en garder une trace. Et exactement, quoi. En tout cas, je te remercie, Marie-Odile. Tu restes avec nous, parce que si tu as envie d'intervenir à un moment ou un autre, n'hésite pas. Hein. On va simplement passer au sujet suivant. Pof ! Et donc, j'ai ressorti la sonnette du sujet long au Café Libre qui aura lieu le 12 décembre. Donc, on va passer au sujet suivant avec Isabella. Je n'ai pas envoyé l'ordre des interventions, effectivement. Donc Isabella, c'est ma collègue qui est coordinatrice vie associative, responsable projet, et que vous avez aussi l'habitude d'entendre au micro de cette radio, hein, d'ailleurs pas plus tard que la semaine dernière. Donc Isabella, est-ce que tu peux nous parler un petit peu des projets, la partie plutôt sensibilisation peut-être de l'April?
Oui, donc moi je suis Isabella Vanni, coordinatrice vie associative et responsable projet pour l'April, donc notamment pour la partie sensibilisation. On a parlé tout à l'heure du groupe de travail transcription. Ben, sachez que le groupe sensibilisation aussi est ouvert à tout le monde, que vous soyez membre de l'April ou pas, que vous soyez des experts incroyables de logiciels libres ou des novices ou des personnes qui souhaitent apprendre, approfondir nos sujets. Et pour participer au groupe sensibilisation, c'est la même procédure. Vous allez sous le site de l'April, vous avez un menu à droite, vous trouvez liste de discussion et vous pouvez faire un message à la liste, vous pouvez vous abonner à la liste d'inscription sensibilisation, faire une petite présentation et c'est parti. Et donc les projets sensibilisation vont être surtout des ressources comme des documents, des pliants, des flyers, des autocollants qui sont des ressources qu'on met normalement à disposition dans nos locaux à l'April, mais surtout sur les stands dans les événements auxquels on participe. On les met à disposition aussi sur un vente libre, une plateforme qui permet de proposer des goodies. Peut-être que Bouki veut présenter un vente libre.
Mais est-ce qu'on les reçoit pour Noël?
Oui, voilà. On nous dit qu'il y a un petit retard en ce moment.
Actuellement, voilà, il y a quelques retards.
Mais voilà, pour dire que, et bien évidemment, on parle de logiciels libres. L'April promeut aussi la culture libre en général. C'est pas un hasard si nos musiques sont libres, les musiques qu'on diffuse ici à la radio. Et donc, ces ressources sont disponibles aussi en ligne. Donc, vous pouvez les télécharger, vous les imprimer et les imprimer aussi par vos moyens et bien sûr aussi les adapter à vos besoins. Le but, c'est que vous puissiez vous approprier de ces ressources pour faire ce que vous souhaitez. Et parmi les projets qu'ont concerné le groupe Sensibilisation, j'aimerais parler du projet participatif Nouvel Autocollant. priorité au logiciel libre. C'est un projet que j'ai confié à Thomas Rivoire, qui a été stagiaire pour communication pour l'April de avril août de 2023. Donc il est pas là avec nous pour en parler. Donc je vais le faire à sa place. C'est un projet participatif. On essaye toujours de impliquer le plus possible de personnes dans nos projets. On est une association. On est une association aussi parce qu'on aime bien faire les choses ensemble, travailler ensemble, créer ensemble. Donc le projet participatif a commencé donc par un constat. Bon, le constat c'est surtout moi qui l'a fait, mais j'ai eu aussi des retours comme quoi l'autocollant priorité au logiciel libre de l'April était un peu vieillot. Voilà, c'était un visuel pas très sexy comme on dit, et effectivement avec la voilà, je dirais pas le nom de la personne, mais elle est à côté de moi, mais on s'est dit ce serait bien quand même de faire un nouvel autocollant. Et donc la première étape, c'est de recueillir des avis, des remarques, des suggestions pour la refonte du visuel. Ces avis, ces suggestions ont été collectés sur un pad ou bloc-notes en ligne, c'est-à-dire une page qui permet d'écrire à plusieurs sur un texte en ligne. Il n'y a pas besoin de se connecter. Hein. On va sur un navigateur, on arrive sur la page et on peut écrire directement avec son clavier. Donc c'est la façon la plus directe, la plus pratique pour rédiger un texte en mode brut, sans mise en forme. Ça permet de faire une sorte de brainstorming, si vous voulez, même si pas au même temps. Et là, on a recueilli pas mal de suggestions. Bien évidemment, on a fait un appel sur notre liste sensibilisation. Et ensuite, ces avis et ces retours ont été mis sur une page wiki. Tout à l'heure, on parlait du wiki pour le projet de transcription. On a des pages wiki, bien évidemment, aussi pour les projets de sensibilisation. La page wiki permet de mieux structurer en fait le contenu et donc de naviguer aussi plus aisément entre les différentes parties. Et à ces moments-là, on a fait un appel à visuels. Eh bien oui, parce qu'on aurait aimé avoir des visuels proposés par nos membres, nos soutiens actifs. On a reçu pas moins de 6 visuels avec plusieurs déclinaisons pour chaque visuel en termes de forme, de couleur. Et ensuite, c'est arrivé le moment de faire l'appel au vote, c'est-à-dire de choisir, en fait, de impliquer un maximum de personnes pour choisir le visuel. Et là, on a utilisé un outil qui s'appelle date.chapril.org. C'est un service en ligne libre. D'ailleurs, l'April propose une instance de ce service, mais il y a plein d'instances qui sont proposées, parce qu'en tant que libre, c'est aussi décentralisé. N'importe qui a un serveur, les compétences, peut l'installer, peut le proposer. Et là, aux outils de sondage permet, par exemple, de choisir une date, mais ça permet aussi de choisir, par exemple, une image ou un sujet. Donc, nous, on a mis les images de nos visuels. On a fait des appels au vote sur nos listes, mais aussi sur les réseaux sociaux. Et il y a plus de 200 personnes, je crois, qu'on exprimé leur avis. Sachez que même cette petite action, je mets une croix sur un visuel qui me plaît, c'est une action de sensibilisation, parce que là bien évidemment, il s'agit de faire un autocollant qui puisse être vu, qui puisse interloquer les personnes qui le voient, et pourquoi pas lancer une discussion. Donc merci à toutes les personnes qui ont répondu au sondage. Le visuel a été choisi. Il s'agit maintenant de le faire imprimer. Donc ça c'est ma partie. Ça se fait pas trop de façon participative, mais ça va arriver vite.
On peut, parce qu'il est sur le salon web, on peut féliciter Antoine, visuel a été sélectionné.
Bien vu. Donc c'est le visuel d'Antoine qui a proposé d'ailleurs plusieurs déclinaisons, parce qu'en fait au départ on voulait faire la refonte du logiciel de l'autocollant priorité au logiciel libre. Antoine a aussi proposé d'autres slogans, par exemple logiciel libre, société libre, et peut-être qu'on va en faire même deux versions, parce qu'en fait tout au long de la discussion avec nos membres soutiens actifs, le slogan logiciel libre, société libre a beaucoup plu. Il y a des personnes qui insistent pour avoir plutôt cet autocollant. Bon, pourquoi s'en priver ? On peut peut-être en prévoir deux. Donc, merci Antoine.
Ok, donc ça c'est le premier projet dont tu voulais parler. Je crois que tu voulais parler d'un deuxième projet.
plus qu'un projet, c'est une activité, c'est-à-dire que l'April, pour sensibiliser au logiciel libre le grand public, participe à de nombreux événements qui peuvent être plus spécifiquement de nature libriste. Par exemple, on vient de participer au Capitole du Libre, qui est un événement libriste majeur en France et qui a lieu à Toulouse chaque année en novembre. On va participer la semaine prochaine au salon professionnel Open Source Experience qui aura lieu à Paris. Et en avril, début avril, il y a les journées du logiciel libre à Lyon, ça c'est pour les événements libristes, mais on participe aussi à plein d'événements différents, toute occasion est bonne pour sensibiliser. Et j'ai souhaité dire que voilà, j'étais très contente de pouvoir faire une intervention cette année, donc en avril, à l'occasion du rendez-vous EDUC autour de l'éducation éthique et responsable organisée par Universcience, donc à la Cité des Sciences, parce que s'il s'agissait en fait de présenter le logiciel libre et les moyens d'agir auprès d'un public, auprès du personnel enseignant. Et donc c'était l'occasion pour moi qui intervient depuis peu de temps au nom de l'April. Je suis à l'April depuis novembre, mais ça fait 3-4 ans que j'ai fait des interventions en mode conférence. Après, j'intervenais sur les stands, mais voilà, les conférences, c'est un peu moins de temps. Et c'était l'occasion justement de reprendre la présentation de logiciels libres, de l'orienter un peu plus vers le public enseignant et de faire aussi des diapos plus précises sur comment s'informer, comment sensibiliser ou trouver des ressources. Bien évidemment, il y avait beaucoup de ressources et de sites de l'April, mais il y avait aussi d'autres sites et d'autres références. Voilà, donc nous, on intervient en tant qu'équipe salariée. Il y a aussi les membres du conseil d'administration qui peuvent intervenir. Il y a d'autres bénévoles. Donc, n'hésitez pas à nous proposer des interventions à Paris, mais aussi partout en France.
Alors, je précise que tu parles d'Open Source Experience, donc le salon a lieu la semaine prochaine, donc si c'est 7 décembre 2023 à Paris, enfin la semaine prochaine, ça dépend de quand est-ce que vous écoutez le podcast, évidemment. Et donc, il y a deux conférences, hein. Il y en a une que tu feras, hein, qui est « Mieux inclure la diversité de genre pour mieux agir, le cheminement de l'April », et une table ronde qui sera animée donc par Étienne Gonu, qui est là actuellement derrière la régie. Et là, le sujet, c'est les collectivités actrices d'une informatique plus libre et plus durable. Donc, évidemment, toutes ces références sont sur le site de l'émission libreavoue.org/193, et donc c'est le 6 et 7 décembre 2023 à Paris, et nous aurons un stand, vous aurez l'occasion de nous découvrir, de nous rencontrer, si vous voulez évidemment nous rencontrer. Isabella, est-ce que tu avais encore d'autres sujets?
Non, je me tiens prête pour éventuellement réagir à d'autres fois.
Alors si, je crois que tu voulais parler quand même de la mobilisation des organisations locales.
Je voulais pas prendre trop de temps, mais oui.
Non, mais t'inquiète pas, le temps, je le gère. Je regarde, t'inquiète pas, il n'y a pas de souci. Chose... Le temps que tu prends, c'est sur le sujet de la présidente. Donc elle est à côté de toi. Donc,
C'est quelque chose à laquelle je tiens beaucoup, la mobilisation des organisations locales. En fait, l'April est une association nationale. On a notre siège donc à Paris, hein, pour être plus proche du centre, des centres du pouvoir. Mon collègue Étienne Gonu vous expliquera plus tard qu'est-ce qu'on fait au niveau de nos actions institutionnelles. Mais ce que je veux dire, c'est que nous, on est une association, on est 4 salariés, on a beaucoup de bénévoles, mais bon, la France est grande, il y a des personnes qui ont besoin partout d'en savoir plus sur le logiciel libre et de libérer leurs machines. Donc heureusement qu'il y a des bénévoles et d'organisations partout en France. On les appelle GUL, les groupes d'utilisateurs et utilisatrices de logiciels libres. Ce sont de personnes merveilleuses qui se mettent à disposition pour vous aider à installer un système d'exploitation libre, à installer une application, à la paramétrer, à répondre à vos questions. Donc, ils proposent normalement des permanences, soit hebdomadaires, soit mensuelles. Je vous rappelle qu'ils sont des bénévoles, donc ils font ce qu'ils peuvent, mais vraiment aller voir sur l'agendadulibre.org. C'est un site qui permet de référencer à la fois les événements libristes, mais aussi les organisations qui peuvent vous aider à libérer vos machines, ou simplement à savoir plus sur le logiciel libre et la culture libre. Et il y a deux rendez-vous annuels qui nous permettent en fait de mobiliser ces organisations et de faire encore plus de communication sur elles. Et donc il y a une manifestation qui est le Libre en Fête, qui est coordonnée par l'April et qui a lieu chaque année autour du 20 mars, donc autour de l'équinoxe de printemps. Et donc on fait un appel donc à participation et les différentes GUL, mais aussi d'autres associations, médiathèques, clubs informatiques, toute organisation intéressée par ces sujets et qui ont en cœur la promotion au logiciel libre peuvent participer. Ils annoncent leur événement sur l'agenda du libre et il suffit de rajouter un mot-clé pour être référencé sur le site du libre en fait, qui donne aussi des informations sur comment trouver des partenaires par exemple ou des suggestions d'événements. Et ça c'est une manifestation donc qui a été dans la première édition remonte à 2001, donc ça existe depuis plus de 20 ans. En septembre en fait on participe à la fête des possibles qui est organisée par un autre collectif qui est le collectif pour la transition citoyenne, et c'est là, pour le coup, ce sont des initiatives qui ne concernent pas que le logiciel libre, mais qui concernent la justice sociale, l'écologie. C'est plus ample. Ce sont des initiatives concrètes pour faire du monde un lieu plus juste, plus solidaire. Ils nous ont contactés justement pour pouvoir avoir aussi un axe logiciel libre, culture libre. Et là aussi, en fait, on fait appel aux organisations locales et aux GUL, groupes d'utilisateurs, utilisatrices de logiciels libres, pour proposer à un public qui est potentiellement curieux et intéressé par nos sujets, de proposer des événements dans le cadre de cette manifestation. Donc on est très à l'appui, on est très content et contente de participer aussi à cette manifestation.
Alors je précise que tout à l'heure tu as dit que le centre de pouvoir était à Paris. c'est un mini joke que Libre en fait a été lancé en Bretagne en 2001 en fait, hein, la première édition a eu lieu en Bretagne dans un magasin à l'époque déjà de vente de produits bio, etc. Donc c'était vraiment c'est un projet qui dure depuis très très longtemps. Et avant de faire la pause musicale, une petite précision, parce que je crois qu'on l'a pas dit, la quasi-totalité des activités de l'April peuvent être menées par des gens qui ne sont pas membres de l'April. C'est-à-dire que le groupe transcription, vous pouvez rejoindre la liste de discussion sans être membre de l'April. Le groupe sensibilisation également, les personnes qui font des traductions également. Voilà, bien sûr, on vous encourage si vous le souhaitez devenir membre de l'April, mais en tout cas la quasi-totalité de nos activités sont ouvertes au contraire à toute personne qui a simplement envie de contribuer un petit peu avec son temps et ses talents. Donc on va faire une pause musicale avant de continuer cette discussion. Alors la pause musicale a été choisie par Julie, qui est toujours avec nous. Nous allons écouter Fluctuation par Joseph Curwen. On se retrouve dans 4 minutes. Belle journée à l'écoute de Cause Commune, la voix des possibles.
Cause Commune, 93.1.
that silvery gleam and bid these clouds depart, and let her soft celestial beam restore my fainting heart.
Nous venons d'écouter Fluctuation par Joseph Kerwin, disponible sous licence libre Creative Commons partage dans les mêmes conditions, CC by SA. Donc je précise qu'en fait Joseph Kerwin c'est le nom d'artiste de Yann Colette, un spécialiste de la musique assistée par ordinateur, et d'ailleurs il était intervenu dans Libre à vous pour parler des logiciels libres pour l'audio et la musique assistée par ordinateur. C'était l'émission numéro 38, et donc pour retrouver les références et écouter le podcast, c'est libreavoue.org/38.
Retrouvez toutes les musiques diffusées au cours des émissions sur causecommune.fm et sur libreavoue.org. Libre à vous, libre à vous, libre à vous. L'émission de l'April sur les libertés informatiques. Chaque mardi de 15h30 à 17h sur Radio Cause Commune, puis en podcast.
Alors, nous allons poursuivre notre sujet principal au cœur de l'April, toujours en présence donc d'Isabella Vanni, Magali Garnero, Marie-Odile Morandi qui doit être toujours à distance, Julie Chaumard qui interviendra peut-être tout à l'heure, et Étienne Gonu qui interviendra tout à l'heure pour parler de justement des aspects institutionnels. Mais là, on va enchaîner avec... Magali, dite bouquinette. Alors, tu disais récemment dans une émission qu'on était les rares personnes à t'appeler Magali alors que tout le monde t'appelle bouquinette.
C'est vrai.
Bon, ben c'est vrai que voilà, on se connaît un peu plus que d'autres personnes. Mais alors, pourquoi bouquinette? C'est quoi ton métier en fait?
Alors, je suis libraire et je fais moins d'1m60, donc book, livre. Épinette, c'est petit, donc...
D'accord. Alors, tu es membre de l'April depuis longtemps, mais tu as accédé à un poste récemment, il y a un an, voilà, le poste de présidente. alors que tu n'es ni informaticienne, ni juriste, ni responsable politique.
Non.
Alors, je sais pas pourquoi j'avais ça dans mes notes, mais je pense que c'est un extrait d'un de tes postes. Donc, comme quoi, on peut être présidente de l'April, on peut évidemment être actif et active à l'April sans être une personne qui fait de l'informatique ou autre, ou des affaires publiques. Donc, ça fait un an. Comment tu te sens un an après?
Frigorifié.
Ah, alors là, c'est le studio. Je vais préciser. Donc, voilà. Je, alors que bon, il fait à peu près bon au studio, mais je crois qu'on n'a pas la même, effectivement, résistance. En tout cas, là, en tout cas, je précise vraiment que si un jour vous avez l'occasion de venir au studio, il est tout beau, là, il est tout gris, etc. Je vous en parlerai d'ailleurs à la fin de l'émission parce que vous aurez l'occasion sans doute de pouvoir visiter le studio. Et Étienne me précise que si tu veux avoir chaud, tu vas en régie parce qu'il fait très chaud en régie.
J'arrive.
Voilà. Donc, à part que tu es un peu frigorifié, que tu as froid, comment ça s'est passé? Enfin, c'est quoi être présidente de l'April, en fait, finalement? C'est quoi le... En tout cas, c'est comment toi tu as vu ce rôle-là? Parce que on voit ce rôle de façon très différente, sans doute.
Alors, quand je suis devenue présidente, je m'étais fixé des objectifs. Je voulais déjà m'intéresser plus au dossier institutionnel et travailler un peu plus avec Étienne. Chose que j'ai bien fait cette année, puisque j'ai même fait un compte rendu récapitulatif du projet de loi contrôle parentage. Je me suis intéressée au SREN, le projet de loi sécurisé, réguler l'espace numérique, mais aussi le DSA, DMA, enfin bref, tous ces acronymes que les politiciens
donc,
adorent.
DSA, DMA.
Digital Service Act et Digital Market Act.
Merci.
Voilà. Merci Étienne de m'avoir formé, en tout cas de m'avoir donné répondu à toutes mes questions. Donc voilà, je m'étais vraiment promis de faire ça et je l'ai fait. C'est pas forcément ce qu'il y a de plus passionnant à faire, mais je l'ai fait. Et du coup, plus on s'y intéresse, plus on se rend compte qu'on sait pas grand chose et plus ça amène de questions et donc plus ça déroule des discussions avec plein de gens, y compris des gens qu'on connaît pas sur les festivals comme le Capitole du Libre dernièrement. Voilà, donc ça c'était mon premier objectif. Mon deuxième objectif c'était me tenir au courant des groupes de travail de l'April, parce qu'on a parlé de pas mal de groupes déjà, transcription et sensibilisation, mais il y en a plein d'autres qui sont quand même assez actifs, genre éducation, traduction et à mon préféré diversité. Donc ben je lis beaucoup plus ce qui se passe sur les mailing lists de ces groupes-là. Et mon dernier objectif, c'était aller à la rencontre des libristes. Et j'ai mis en place le fameux tour des gules, puisque je n'avais pas le droit de mettre comme nom de cet événement « Engulez-vous ». Donc j'ai mis en place le tour des gules et je suis partie. Ah,
rappelle-nous ce que c'est pour que les gens comprennent ce que c'est qu'un gule.
Alors un gule, c'est un groupe d'utilisateurs et d'utilisatrices de logiciels libres. Il y en a un peu partout en France, mais il y en a aussi dans le monde en entier. Et on a beau faire appel à eux pour les événements, on les connaît pas forcément. Et je me suis dit, tiens, si j'allais les squatter pour les rencontrer. Et puis du coup, parler d'eux en faisant des comptes rendus. Donc j'ai commencé mon récit de voyage sur un an de tous les gules que j'avais rencontrés. J'ai commencé à Beauvais, je suis allée à Rennes, je suis allée à Nantes, je suis allée à Écommois, je suis allée à Choisy-le-Roi, je suis allée en Bretagne du Nord, je suis allée aussi à Toulouse, je suis allée à Lyon, je suis retournée à Toulouse et je sais que je vais aller à Montpellier, je vais aussi aller à Marseille, je vais aller à Annecy.
Alors, si tu vas à Montpellier, je précise à Antoine, sois présent à Montpellier pour qu'au moins il y ait du monde à l'apéro à Montpellier. Et si tu vas à Montpellier, la dernière fois que j'y suis allée, Antoine était là, donc...
Si je vais à Montpellier, je vais appeler tellement de gens qu'il n'y aura pas assez à boire et à manger. Mais oui, je prévois d'aller partout.
Ah, attends, excuse-moi, parce que sur le salon web, alors DS, je vois qui c'est DS, d'accord, okay, j'ai compris, c'est les initiales d'un membre qui dit, voilà, le tour des gules, la visite à Lannion et Bégard a été un plaisir, malheureusement trop court, merci. Alors,
c'est vrai que c'était trop court.
Voilà, je peux dire au moins le prénom, c'est David, je suppose. Voilà, donc effectivement, donc un tour effectivement de tous ces groupes, donc en France peut-être après, en Suisse, en Belgique et ailleurs.
Bah si on m'invite, j'y vais. Hein.
Voilà, il faut donc n'hésitez pas à l'inviter. Après, il y a d'autres membres actifs, personnes actives de la Pride qui peuvent aussi effectivement faire ce genre de déplacement, hein, pas que la présidente évidemment. Donc n'hésitez pas à nous appeler. Hein. Et donc DS confirme sur le salon web que c'est bien David. Et c'est alors quand tu fais ces déplacements, c'est quoi? C'est une rencontre autour d'une conférence ou c'est un événement juste festif? Comment ça se passe en fait?
Alors ça dépend des endroits qui me reçoivent. Ça a pu très bien être un apéro en mode éclair, même si c'était vraiment beaucoup de transport pour juste boire un coup. Mais ça peut aussi être le passage du film LOL. Logiciel libre, je sais plus, mieux que moi ça Fred.
Donc le film c'est LOL, logiciel libre, une affaire sérieuse qui a été donc qui est sorti en 2019 de mémoire, même si elle a été tournée avant, dans lequel tu interviens,
on est plusieurs à intervenir,
voilà. Et qui est c'est pas parce qu'on intervient que ce documentaire est de qualité, hein, c'est que parce que simplement les personnes qui l'ont réalisé ont vraiment fait un travail à la fois d'écriture et de montage aussi, vraiment très bien. Et il est diffusé en ligne, hein, donc on mettra la référence sur la page de l'émission, donc libreavoue.org/193.
Voilà, je peux aussi faire des conférences. J'ai aussi animé une petite table ronde avec deux anciens vice-présidents de l'April quand je suis allée à Toulouse. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? J'ai participé à un festival de réparation quand je suis allée du côté des Comois. Bref, j'ai aussi fait une table ronde d'éducation quand je suis allée à Beauvais. Bref, je m'adapte. Je m'adapte vraiment à ce que vous voulez organiser et j'ai toujours quelque chose à dire, donc c'est facile.
Alors là, c'est un Lyonnais, je crois de me souvenir, Mumane, qui nous dit, petite par la taille, mais grande... non, il est de Valence, il n'est pas de Lyon, il est de Valence, excuse-moi. Qui dit sur le salon web, petite par la taille, mais grande par le cœur. Donc j'en profite pour rappeler que si vous voulez intervenir vous aussi sur le salon web, hein, vous allez sur causecommune.fm, bouton de chat et salon libre à vous, ou directement sur le site libreavoue.org, il y a la zone de chat qui s'affiche. Quelles sont les questions en général que tu as des gens que tu vas voir concernant l'April ou ton activité Est-ce que des choses récurrentes qui reviennent?
Alors, les dossiers de l'April, on me demande souvent ce que fait l'April et de plus de détails. C'est pour ça que je fais souvent les yeux doux à Edienne pour avoir un maximum d'informations.
Avec son consentement?
Ah, les yeux doux, c'est de loin, il n'y a aucune agression. Hein. Voilà. Donc ça, sur ce que fait l'April, quels sont ses dossiers, futur t-shirt? Ça revient hyper souvent.
T-shirt, on y vient juste après. On revient sur la partie institutionnelle. Toi, c'est pas ton truc, l'institutionnel. Enfin, c'est pas le truc de grand monde, hein. Franchement, c'est vrai qu'il y a un côté chiant, mais qui est essentiel. Et qui demande aussi du temps pour assimiler pour le restituer. Est-ce que c'est pas quelque chose qui te stresse, ou au contraire, t'aimes bien ça, finalement? Cette plongée dans l'institutionnel, est-ce que ça t'a plu ou pas, finalement,
en fait? Alors, j'adore en lire. J'adore écrire, j'ai horreur d'en parler. Ça se voit très bien quand je fais les conférences, parce que j'ai toujours un plan hyper bien préparé. Mais quand plus j'en parle et plus je m'énerve parce que y a pas de répondant. Autant nous, on fait des trucs extraordinaires, on contacte des gens, des députés, des sénateurs. Mais en face, j'ai souvent l'impression qu'il y a du silence et surtout une incompétence incroyable. Je disais dernièrement, il faut pas penser au complot. Des fois, l'incompétence suffit. Et c'est vrai que quand je parle des dossiers institutionnels, j'ai tendance à
m'énerver. Quand tu parles d'incompétence, tu parles des politiques?
Bien sûr.
Ah oui, d'accord, ok.
Des politiques qui vont légiférer sur des choses qu'ils ne comprennent même pas eux-mêmes. Donc ils pensent bien faire, mais qui souvent font soit de la merde, soit des trucs approximatifs qui vont être liberticides pour le logiciel libre. Toi, je suis déjà en train de m'énerver.
Oh, si tu t'énerves comme ça, ça va, ça reste... donc effectivement, c'est pas ce que tu préfères, mais c'est ce qui est demandé, parce que... Effectivement, c'est aussi la chose qui est sans doute la plus difficile à suivre hein, pour les personnes extérieures, parce que finalement, si on compare par rapport tout à l'heure à une action de sensibilisation comme l'autocollant priorité au logiciel libre, finalement, ça revient effectivement à donner son avis par rapport à un graphisme qui est proposé par rapport à un visuel, et donc c'est relativement rapide et tout le monde peut avoir un avis là-dessus en fait, et il suffit ensuite juste de cliquer et de dire qu'effectivement de suivre un dossier institutionnel. Faut lire les communiqués de l'April ou ceux d'autres structures, même en écoutant Libre à vous. Alors on essaie justement dans Libre à vous d'aborder ces projets de loi justement de façon la plus accessible possible, mais ça reste quand même des choses qui sont pas accessibles par nature, donc c'est un peu compliqué, mais c'est ce qui est en tout cas demandé quand tu vas voir les gens, quoi. Donc il y a ça, vas-y, oui.
Après il y a un petit côté jouissif quand des amendements qui sont proposés par l'April sont repris par des sénateurs ou des députés. Là on se dit on n'a pas pissé dans un violon, ils nous ont entendu, et hop, quand le mot logiciel libre arrive dans la loi, comme il y a eu un petit moment, ben... C'est la fête, quoi. C'est champagne et compagnie. Donc, c'est pas que négatif. Il y a quand même des moments de joie qu'on partage.
Alors, ça me fait penser qu'il faut quand même rappeler qu'aujourd'hui, il est plus facile aujourd'hui d'essayer d'avoir des contacts avec des responsables politiques qu'il y a quelques années, hein, parce que notamment, ils sont pas mal présents sur des réseaux sociaux, mais aussi par courriel, etc. Donc, toute personne qui a une expertise, ou en tout cas qui a même un avis simplement sur un projet de loi, il ne faut pas hésiter à contacter les responsables politiques. Alors, c'est pas forcément la responsable politique qui va lire le courriel, ça peut être par exemple une assistante ou un assistant. Mais en tout cas, voilà, il ne faut pas hésiter parce que nous-mêmes, en tant qu'Action de l'April, on a contacté des gens, des fois, sans les connaître, et puis on a eu des retours, donc ça peut être effectivement intéressant à faire. Je précise d'ailleurs que comme on parle un peu de dossier institutionnel, je précise à Étienne qui peut se préparer pour en parler un petit peu tout à l'heure, mais effectivement rapidement. Donc il y a cet aspect institutionnel, et tu dis que le deuxième sujet, bon, ça qui m'étonne pas parce que à la prime on est très fort dans l'institutionnel, et puis effectivement notre grande qualité à côté, c'est notre qualité de t-shirt, notamment des couleurs de t-shirt. Donc on te demande lequel sera le prochain t-shirt de l'April.
Exactement, on me l'a demandé plusieurs fois, donc à chaque fois je dis on va écouler les stocks qui restent avant de penser à autre chose.
C'est ça aussi, oui. Tu devrais venir en fait dans ta valise avec les t-shirts de l'April pour écouler le stock.
Oui, mais si j'écoule, ça sera en cadeau, hein, franchement. Ça ira plus vite que de les vendre. Par contre, dans le futur t-shirt, bon, il y a beaucoup de discussions en ce moment. Je peux en parler, Isa? Tu peux aussi en parler avec moi, mais...
Je peux rebondir.
Ouais. Ben, faire des goodies, c'est finalement pas super écolo que ça. Et on réfléchit à faire plutôt une sorte d'autocollant à coller sur des t-shirts que les gens ne mettent plus parce qu'ils les ont trop vus, plutôt que de faire des t-shirts soi-même.
Oui, donc c'est une idée qui circule. On fera à nouveau, on appellera, on demandera à nos membres et soutiens actifs leur avis. Parce qu'il y a déjà un bénévole qui m'a dit oui mais moi j'ai pas de fer à repasser donc voilà, ça c'est un geek, hein, il faut le dire, c'est il trouve toujours n'est-ce pas toujours la petite bête, mais voilà, effectivement ça peut être une idée pour faire quelque chose de plus déjà de fabriquer en France, et ça permettra aussi par exemple de l'appliquer sur un t-shirt qui vous plaît, parce que les visuels ne plaisent pas forcément tout le monde. Le thermocollant ne sera pas énorme, sera plutôt petit, simple, donc vous pouvez de cette façon customiser un t-shirt, une casquette ou autre vêtement et tissu. Voilà.
Et après, si on peut se balader avec un mug rempli d'eau et des éponges pour faire des tatouages aux gens, je pense qu'on peut aussi se trimballer avec un petit fer à repasser.
Ça existe, hein, les petits fers à repasser, je crois. Oui, je les ai vus dans les tutos couture.
Voilà, il nous faudra juste de l'électricité, mais ça, c'est pas incompatible sur un stand.
Il y en a encore pour le moment.
Oui, pour le moment, effectivement. Votre échange me fait penser que sur la page de présentation de l'April, on a mis récemment en ligne une page qui est une association consciente de ses responsabilités. Mmh. Parce qu'évidemment, au-delà de notre militantisme et des valeurs qu'on essaye de porter, on a effectivement, nos activités ont forcément un impact social, sociétal, environnemental et autres. Et donc, on y réfléchit à chaque fois. Donc là, tu parles effectivement des t-shirts. Il y a plein de sujets effectivement qui tournent autour de ça, des fournisseurs plus éthiques. Voilà, c'est une réflexion qu'on a et que donc peut-être qu'il n'y aura pas effectivement les t-shirts habituels de l'April la prochaine fois. Mais en tout cas, on a cette réflexion là et donc n'hésitez pas aussi à nous rejoindre pour porter cette réflexion dans d'autres domaines. Voilà, je mettrai aussi le lien sur la page consacrée à l'émission.
On n'a pas une liste dédiée à ça, donc les personnes nous contactent où?
Ben, ils nous envoient par l'adresse de contact en général et puis voilà quoi.
Donc, oui, il y a un formulaire de contact.
Il y a un formulaire de contact sur april.org en général et qui et on y répond. Donc voilà, donc, institutionnel, t-shirt. Donc ça c'est la partie des donc d'aller à la rencontre finalement des libristes. Et dans ta découverte des groupes de travail, donc est-ce qu'il y a des groupes qui t'intéressent plus que d'autres ou des groupes que tu aimerais voir peut-être plus actifs?
Alors, dans les groupes que j'aimerais bien voir un peu plus actifs, il y a le groupe Diversité. C'est un groupe qui existe depuis un long, 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 long moment, puisque moi, je le connais depuis que je suis arrivée, qui parle justement d'avoir plus de diversité. Parce que si on est tous, alors là, je vais dire un truc bizarre, mais si on est tous des hommes blancs, hétéros, informaticiens, c'est beaucoup moins riche que s'il y a des hommes, des femmes, des informaticiens, des libraires, des gens qui font de la radio, ainsi de suite. Donc plus on est divers et mieux c'est, et plus c'est enrichissant, plus les arguments qui seront échangés seront intéressants. Donc ce groupe Diversité, je l'aime beaucoup, je le suis, j'en suis l'animatrice depuis aussi 2012 je crois, et j'aimerais bien le voir plus actif. On a fait un peu appel à lui quand on a voulu réécrire la charte de bonne conduite, parce que tu parles de la page. Le code de bonne conduite, effectivement. J'avais noté charte, tant pis. Code. Mais effectivement,
le code de conduite, tout simplement, excuse-moi. Oui, c'est même pas bonne conduite, c'est le code de conduite.
Depuis que je suis présidente, je vois de nombreuses actions à ce niveau-là où on remet les choses en question, on essaye d'être plus accueillant. Ne serait-ce que le code de bonne conduite. En ce moment, on est en train de modifier les statuts de l'April. Donc, c'est un travail qui est en cours. Donc, voilà, on est en train de se déconstruire pour être plus ouvert encore à toute personne, que ce soit des informaticiens, des non-informaticiens, des femmes, des hommes, des gens non-binaires. Voilà, c'est quelque chose qu'on travaille beaucoup en ce moment. Et j'avoue, ça me plaît d'être actif dans ce genre d'action-là.
Alors, j'ai l'air précisé, parce que tout à l'heure, dans la première interview, on avait Lucie Anglade, qui a parlé en fin d'émission par une excellente question de Julie sur l'atelier mixité choisie autour de Python. C'est qu'on a une page, l'April, où on sous-loue de la place à nos amis d'Easter Eggs et on peut accueillir des réunions. Donc, on a une page qui décrit les conditions pour accueillir les réunions, notamment le nombre de places, etc. Et on a une partie où on peut accueillir des réunions, soit en mixité choisie, soit en non-mixité choisie, vu que c'est pas la même chose, et j'ai échangé avec Lucie justement sur cette terminologie-là récemment. Donc voilà, et donc sur la page que je mettrai aussi en référence, il y a un certain nombre d'actions qu'on mène, notamment dans le cadre de l'émission Libre à vous, le simple fait d'avoir une politique explicite visant à promouvoir les femmes libristes dans l'émission, c'est-à-dire que c'est un travail qu'on fait pour chaque émission, ce qui nous permet effectivement de ne pas se retrouver qu'avec des hommes qui interviennent, parce que quand on fait pas cet effort-là, on se retrouve en fait très facilement qu'avec des hommes, vu que c'est les intervenants principaux. Et je vais rappeler même si je l'ai déjà dit tout à l'heure, que d'ailleurs on va faire un retour d'expérience, en tout cas dans l'étape où on est actuellement. Donc c'est mardi, je ne sais pas si c'est mardi, c'est le 7, donc est-ce que c'est le jeudi? C'est le jeudi 7 décembre, donc c'est Isabella qui fera une conférence donc à Open Source Experience à Paris, et intitulée « Mieux inclure la diversité de genre pour mieux agir, le cheminement de l'April ». Alors là, ça sera orienté évidemment sur la diversité de genre, mais on inclut évidemment dans nos réflexions toutes les diversités, c'est évidemment pas uniquement que la diversité de genre. Donc il y a ce groupe-là et d'autres groupes ou non? Alors je rappelle encore une fois que la quasi-totalité de nos groupes de travail sont ouverts aux personnes extérieures, donc il suffit simplement d'aller sur le site de l'april.org, retrouver la page du groupe de travail et il y a une inscription sur la liste de discussion. Alors peut-être que on va solliciter Étienne, vu qu'on a parlé un petit peu d'institutionnel et pour être sûr de ne pas oublier, parce que le temps avance et donc Le soutien à l'APRI, notamment, alors, comme je dis, il n'y a pas besoin d'être membre pour nous soutenir, mais pourquoi beaucoup de membres nous soutiennent, et on le voit lors des rencontres que tu fais, et nous soutiennent financièrement, c'est que ça permet de payer des personnes pour agir sur, au quotidien sur un certain nombre de sujets, et donc notamment Étienne, qui est tout simplement chargé des affaires publiques à l'APRI. Alors, les affaires publiques, c'est un titre un peu ronflant, mais assez traditionnel, c'est celui qui va porter et prêcher la bonne parole auprès de Jean-Noël Barrot et autres responsables. J'ai rien contre Jean-Noël Barrot en plus. Franchement, c'était une petite blague pour te faire sourire tout à l'heure. Alors, c'est quoi ton travail, Étienne? Et même si on en a déjà parlé dans plusieurs émissions, quels sont les sujets actuellement chauds?
Déjà, effectivement, c'est de rentrer dans les centres de pouvoir pour influer et faire prospérer le logiciel libre. C'est vrai que le poste d'affaires publiques, on touche à beaucoup de choses. Bon, le premier auquel on pense, ça va être d'agir sur les projets de loi. Par exemple, Magali a mentionné le projet de loi sécuriser et réguler l'espace numérique, projet de loi SREN. Alors là, le logiciel libre n'était pas au centre des sujets, parce que ça cherchait plus à réguler les relations entre les utilisateurs, utilisatrices et les grandes plateformes. Mais c'était un projet de loi très très large, hein, qui parlait de système des vérifications d'âge pour accéder aux sites pornographiques, pour système de vérification d'âge pour les sites où il y a potentiellement du contenu pornographique, donc ça autre chose en plus à définir, les questions de filtre anti-arnaque, etc., au niveau des navigateurs web. Donc parmi les points qu'on peut citer, c'est effectivement sur ce filtre anti-arnaque, au début on a craint que les navigateurs web, dont Firefox par exemple, qui est un logiciel libre, soient contraints de bloquer des contenus. Bon, et voilà, il y a eu fort heureusement, par suite d'un amendement, ça a été minimisé, les navigateurs n'auront qu'un filtrage à mettre en œuvre, qui sera donc dépassable, et pas un blocage pur et simple, un blocage administratif des sites web. Un amendement aussi avait été porté par le groupe Europe Écologie Les Verts et puis suivi ensuite par la France Insoumise pour exiger une transparence sur transparence des systèmes de vérification d'âge. Après tout, puisque si la représentation nationale décide que c'est l'intérêt général d'avoir ces systèmes, eh bien il semblerait assez logique que ces systèmes puissent être transparents pour que le public finalement puisse en assurer le bon fonctionnement. Cet amendement a été rejeté par la majorité et donc ensuite par l'Assemblée. On peut également noter le rejet de l'obligation d'interopérabilité des réseaux sociaux, qui est porté historiquement par nos amis de la Quadrature du Net. On attend, donc sur ce projet de loi, on attend la réunion de la commission mixte paritaire, hein, donc c'est à la fin de chaque navette parlementaire. Que ce soit un projet ou une proposition de loi, il y a une commission mixte paritaire qui réunit pour moitié des membres du Sénat, pour moitié des membres de l'Assemblée nationale pour trouver un texte de compromis entre les positions des deux chambres. Donc elle doit se réunir, mais dans un contexte particulier qui est celui que la Commission européenne a tiré à boulet rouge sur ce projet de loi.
Étonnant.
Oui, alors la France semble abonnée. Alors je ne sais pas comment ça se passe dans les autres États européens, mais régulièrement la France prend un peu les devants et se sent, cherche à tirer un petit peu ce voix comme moteur des politiques européennes. Bon, la Commission européenne lui a rappelé qu'en fait elle doit quand même respecter la législation européenne notamment. Donc une lettre assez énervée de Thierry Breton à Jean-Noël Barrot et au gouvernement français. Donc voilà, on va voir un peu qui pointait notamment des incompatibilités entre différentes dispositions du projet de loi et le Digital Services Act et le Digital Market Act, qui sont des règlements européens. Donc on verra ce qu'il en sort. Ce sera pas avant, a priori, janvier, voire février plutôt, étant donné les délais, janvier ou février 2024. Je précise peut-être qu'on a reçu le 7 novembre dans Libre à vous Mozilla France, la Quadrature du Net et Act Up Paris, qui sont donc trois associations qui ont agi sur ce projet de loi. Donc dans l'émission Libre à vous 190, j'ai mis le lien en référence. Et vous retrouvez aussi en référence notre actu de bilan, sur les points qui nous concernent un peu plus directement sur ce projet de loi.
Écoute, merci Étienne. Alors, je voudrais pas zapper la pause musicale d'après parce que je l'ai choisi pour Étienne, justement. Donc, on va respecter les horaires. Il nous reste, peut-être 1 minute 2. Est-ce que quelqu'un veut rajouter quelque chose sur ce qu'on vient de dire, Magali?
Il y a quelque chose que j'avais pas prévu quand je suis devenue présidente de l'April, c'est qu'on me mettrait derrière le micro à la radio hyper souvent.
Alors, comme tu le dis, on a l'impression en fait qu'on te force, mais c'est plutôt toi qui prends plaisir à venir. Et nous, on a très plaisir que tu viennes, effectivement. Alors, c'est vrai que comme tu l'as dit, t'aimes pas parler.
J'adore parler derrière un stand.
Voilà, t'aimes d'ailleurs parler derrière un stand, si possible, derrière un stand de libraire aussi.
Plus souvent de libriste que de libraire.
Plus souvent de libriste que de libraire. Ah, c'est vrai qu'il y a peut-être moins de stands.
On fait plus de stands en librairie.
On fait plus de stands, d'accord. Parce que j'avais vu des affiches dans le métro sur le salon des livres de jeunesse qui arrivait bientôt, je crois, à Montreuil.
Oui, mais j'y vais pas, c'est loin.
D'accord.
Non, c'est pas loin, Genève. Si on m'invite en tant que présidente, j'y vais.
Où ça ?
À Genève.
Ah, à Genève. Ah bah, tu pourrais rencontrer Isabelle Collet, qui re-rencontrer Isabelle Collet.
Je serais ravie de re-rencontrer Isabelle Collet.
Qui habite Genève et qui est une spécialiste notamment des questions de genre informaticienne. Voilà, et qu'on a déjà eu dans l'émission. Alors, je l'ai pas en tête, l'émission. Avec Stefano Zacchiroli. Bah, vous irez sur libreavoue.org et vous chercherez Isabelle Collet. Écoutez, on va conclure avec, sans doute avant de faire, au moins qu'Isabella ait quelque chose à rajouter. Non. Alors sur le salon web, est-ce que vous avez une dernière question ou une réaction? Je vois que Marie-Odine nous précise que la lettre dont tu as parlé, Étienne, était adressée en fait à Madame Colonna, qui doit être la ministre en charge des affaires européennes, je pense.
D'accord.
Jean-Noël Barrot étant le ministre en charge du numérique, et encore une fois, on n'a rien contre lui. En tout cas, en tant que personne, hein, c'est par rapport.
On le connaît pas.
Voilà, on le connaît pas. En plus, donc, de toute façon, voilà.
Je peux juste mentionner très rapidement ce que tu m'en parlais. Vas-y. De l'open source expérience. L'April participe, il est membre du jury du territoire numérique libre depuis sa création, donc depuis 2016. Et donc, la semaine prochaine, voilà, moi, je représente l'April au sein de ce jury. On va se réunir lundi. Et je crois que c'est le 6 ou le 7. Pas la date, on va remettre ces labels aux collectivités qui œuvrent pour le logiciel libre.
Ok, bah écoute, c'est nickel. Je sais pas qui tape au clavier dans le micro, mais en tout cas, on entend quelqu'un taper au clavier. C'est peut-être Marie-Lille, je sais pas si. Marie-Lille, tu es toujours avec nous ?
Oui, tout à fait.
Ah, d'accord, donc c'était toi. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose ?
Non, je viens d'écrire que Barreau a les oreilles qui sifflent. Il vient de faire.
Tu sais, je pense qu'ils ont des oreilles qui sifflent bien pire avec bien d'autres personnes. Bon, ben en tout cas,
merci.
Ben merci Marie-Élie en tout cas d'avoir participé. Nous referons bien sûr un sujet au cœur de l'April à courant 2024, hein, parce que là, bientôt on approche de la fin de l'année. Peut-être d'ailleurs pour la 200e. Je sais pas ce qu'on va faire pour la 200e, hein, qui aura lieu en janvier ou en février. Donc merci à vous. Hein, puis
merci à toi pour l'animation.
Ben rien, avec plaisir. Ben vous restez avec nous pour la suite, notamment la puce musicale et une de vos chroniques préférées qui va arriver après.
Ah, hein. Oui.